Hello, j'ai le plaisir de vous partager une bonne nouvelle. Pour le 100e épisode du podcast Action Réservation qui sortira le 17 avril, je vous ai prévu quelques petites surprises qui seront valables uniquement du 17 avril au 30 avril pendant 2 semaines. Et ben pour en savoir plus, il vous suffit simplement de vous abonner à la newsletter. Vous retrouverez le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Et puis vous serez donc informé en temps et en heure sur l'ensemble des offres que je suis en train de vous préparer. Belle écoute à tous et j'espère à très vite pour ce rendez-vous du 100e épisode. Hello, hello, bienvenue pour ce nouvel épisode du format Journal de bord. Alors, le Journal de bord, qu'est-ce que c'est ? C'est un format un peu spécial que j'enregistre en duo avec un hébergeur touristique, en l'occurrence ici dans cette série d'épisodes avec Alexandre Comte, qui est déjà intervenu sur le podcast dans l'épisode 32. Et qui vient nous partager en fait les avancées de son projet de lancement d'un hôtel-restaurant prévu pour avril 2024. Cet hôtel-restaurant, il est basé dans l'Ain et il va tout simplement en fait nous raconter les éventuelles difficultés, mais aussi les avancées, les bons conseils. Et moi, je le challenge un petit peu sur quelques points stratégiques de sa communication et de son marketing. Je vous laisse découvrir ce nouvel échange avec Alexandre et je vous souhaite une très belle écoute à tous. Et bienvenue Alexandre dans ce 6e épisode du Journal de bord. On est le vendredi 23 février, l'épisode sortira la semaine prochaine. Où est-ce que tu en es ? Comment tu te sens en cette fin février avec vraiment, déjà le mois dernier on parlait déjà de dernière ligne droite, mais alors là t'es encore plus proche de la ligne de... Est-ce qu'on dit de ligne de départ ou ligne d'arrivée finalement dans ton cas ?
Salut Yen. On peut. Alors c'est difficile. Tiens, c'est non, on est au milieu d'une ligne droite. Alors la ligne droite peut être plus ou moins longue. Hein. Ça dépend du circuit qu'on prend. Mais on va dire que sur un dossier comme ça qui est attaqué en janvier 2023, on est plus vers la fin que au début. Mais l'intensification fait que voilà, c'est la vraie ligne droite. Il reste, on va dire, quelques semaines maintenant, parce qu'on peut dire, on peut parler en semaines et plus en mois. Il reste quelques semaines qui vont être intenses, mais on s'approche doucement du moment fatidique, mais très attendu de l'accueil du premier client. Et c'est aussi ce qui nous motive tous les jours à nous dire, il faut qu'on reste focus sur cet aspect-là de réussir ce premier séjour client.
Et ben justement, comme tu parles du séjour client, et justement, le thème de notre épisode, c'est l'expérience client. Comment on peut penser l'expérience client comme fil conducteur dans nos réflexions et qu'on soit en phase de démarrage ou même qu'on soit en phase d'activité, hein, justement. Et comment on peut penser l'expérience ou repenser son expérience et comment est-ce qu'on la construit, typiquement, comment on construit une expérience client dans l'hôtellerie ?
Alors, il y a trois aspects. Il y a l'expérience client telle qu'on la conçoit au moment de l'imaginaire qu'on met dans le concept. Donc déjà, ça c'est la partie très théorique. Alors certains diraient, on fait un ou plusieurs personas, on se cale. Donc là, c'est purement, on va dire, plutôt du marketing. Cet aspect-là, on l'avait déjà anticipé. Là, on est vraiment dans une phase où on s'est dit, on met aussi en corrélation nos expériences à nous, les expériences de nos entourages. Donc, on interroge beaucoup. On est toujours très, alors c'est des fois un peu compliqué, mais on est souvent dans l'interrogation avant de faire un choix, définitif, de se dire. Alors presque on n'a pas le droit à l'erreur, mais on se donne toujours ce droit à l'erreur. En tous les cas, c'est de faire le meilleur choix en disant qu'est-ce que j'imagine en me mettant à la place du client. Donc déjà, il faut arriver à faire preuve de beaucoup d'empathie, de faire remonter nos propres expériences, alors à la fois pro, à la fois en termes de séjour, à la fois en termes de client, et puis d'écouter l'entourage, d'écouter les gens qui sont du secteur, ceux qui sont un peu moins du secteur mais qui voyagent beaucoup, etc. Donc on se pose encore beaucoup de questions. Et effectivement, la troisième phase, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est de se dire, il y a ce droit à l'adaptation de l'expérience client. Et là, ce sera au démarrage. À partir du moment où on accueille les premiers clients, qu'il faudra qu'on se pose aussi les questions de comment est-ce qu'on répond aux premiers commentaires, aux premiers retours. Il faudra qu'on reste en phase d'écoute très fortement.
Ok, donc ça, clairement, il y a trois étapes et qui finalement suivent l'évolution du projet. Donc c'est la ça. Phase 1 qui est l'imagination du concept, Phase 2 qui est un peu plus la phase d'interview, finalement, d'enquête. Donc, on était vraiment dans une étude exploratoire. Okay.
Au moment des choix.
Au moment des décisions stratégiques. Et puis, donc, tu as une troisième étape qui est vraiment l'étape observation, finalement, terrain. Et qui, du coup, permet de faire de l'amélioration et de l'ajustement.
Voilà. Alors, là où ce sera le plus difficile, c'est de faire les adaptations sur le produit en lui-même, sur la partie hard. Mais par contre, sur la partie service, il faudra que qu'on reste à l'écoute et qu'on se dise que justement, les clients vont nous apporter encore plein d'idées. On essaye d'anticiper au maximum. On parlait ce matin avec la directrice adjointe de l'hôtel de la partie des vélos électriques, la mise à disposition des vélos électriques. Ça sous-entend qu'il faut pouvoir sécuriser le stockage des véhicules électriques, des vélos électriques, pardon. Mais aussi, comment est-ce qu'on recharge les batteries des vélos? Donc, toute cette partie-là qu'on essaye d'anticiper au maximum. Et après, il y aura peut-être des services qu'on n'a pas encore imaginés, des retours clients qu'on n'a pas encore imaginés. Et il faudra, sur la partie service, qu'on garde cette faculté d'adaptation et d'ajustement.
Alors justement, c'est intéressant ce que tu es en train de dire, c'est qu'il existe différentes composantes dans l'expérience client. Si tu devais découper ton expérience client quand tu l'as définie, il y a quoi comme item dans ta réflexion? Tu as parlé clairement déjà, tu as parlé du produit et des services. Donc déjà, on entend succinctement comme ça qu'il y a dans la construction d'une expérience client une partie qui est dédiée à l'expérience liée au produit que tu offres et une expérience liée au service que tu offres. Là, je suis peut-être en train de trop généraliser, mais est-ce que tu as des items ou des composantes clés pour construire et définir ton expérience client?
Alors, l'expérience client, elle est la base, on va dire, où elle se calque sur le parcours client. Donc, il faut qu'on travaille, et c'est notre, j'ai envie de dire, presque notre quotidien aujourd'hui, de se dire, OK, quelles vont être les portes d'entrée en termes de marketing, en termes de communication, en termes de notoriété, qui vont faire qu'on va déjà faire connaître notre hôtel. Donc c'est une fois qu'on a passé ce point-là. Donc ça, je pense que c'est cette partie-là, marketing, communication. Alors on l'avait un peu évoqué sur la création de l'identité de marque, etc. Donc on travaille sur les valeurs. Donc ça, tout cet aspect-là, on l'a déjà entre guillemets passé. Alors ça ne veut pas dire qu'on travaille au quotidien avec. Il va probablement continuer à évoluer aussi, mais c'est une partie. On a besoin de se faire connaître et c'est la porte d'entrée du premier contact client. Après, il y a toute la partie des différents points d'accès du client à nos services et à nos offres. Donc ça va passer par la distribution, le choix des OTA, le choix des segments, le choix des outils, des partenaires, etc. Donc ça, c'est une partie un peu, on va dire, développement tech et mise en place des partenariats, des outils, des mappings, etc. Donc c'est une partie un peu offline, mais pas visible, pas offline, c'est pas le bon terme, mais une partie un peu moins visible. Après, il y aura tout cet aspect de, à partir du moment où j'ai un site internet qui permet de faire une première réservation, un numéro de téléphone qui va me permettre au client d'avoir un contact avec les équipes, les premières réservations, etc. Donc, il y a toute cette partie, là, pour le coup, purement service, on va dire 100% service. Et là, c'est encore ce troisième aspect. Et je passe très rapidement, mais il y aura tous les aspects de l'arrivée, pendant le séjour, s'enquérir des premiers ronds commentaires du client, pas attendre que le client soit parti pour adapter, si besoin de s'adapter, recueillir l'avis du client, répondre aux avis du client et travailler la fidélisation. Donc ça, c'est des étapes qui arriveront, j'ai envie de dire, un petit peu après, mais qu'on a déjà mis dans notre parcours client.
Aujourd'hui, et qui font partie quand même
et qui font
de
complètement
l'expérience
partie,
client.
Ouais, complètement. Mais qui sont pour l'instant très un peu tôt, on va dire, pour...
Ok, mais c'est dans ta ligne de mire quand même. Ok.
Ce sera nécessairement, oui, tout à fait.
Ok, donc ce qui est intéressant, c'est que donc effectivement pour toi définir l'expérience client, c'est une notion de finalement parcours. Ok. C'est les différentes étapes auxquelles le client va entrer en contact avec ton activité, ton entreprise. Ok. Donc la phase amont qui est vraiment, j'entends parler de toi. Ok. J'ai un projet de séjour. Et du coup, à chaque étape, la communication marketing. Ok. Justement, c'est bien que tu le rappelles, c'est que l'ADN de marque que tu as travaillé en amont, elle vient finalement se déverser sur justement en quoi tu vas pouvoir, en quoi l'expérience client, de quoi elle va être dotée finalement. Tu es déjà en train de le raconter grâce à ton ADN de marque. C'est comme ça que tu inspires en fait à ce moment-là l'envie de voyage. Okay. Ce qui était intéressant dans ta deuxième étape, c'est toute la partie distribution. Donc les différents canaux de contact, les différents points de contact par lesquels le client peut passer. Les différentes plateformes en fait, de réservation, hein, concrètement, c'est que ce soit en direct chez toi via ton site internet ou via des bookings ou via autre. Et est-ce que justement à cette étape, typiquement, vous imaginez une expérience qui soit sensiblement la même partout ou un peu différente en fonction des plateformes? Est-ce que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de je sais pas, de bon, les messages et les chambres, de toute façon ça c'est le produit, ça changera pas, mais est-ce que l'expérience elle peut selon toi être un peu différente qu'on passe sur le site de Beau Hotels ou qu'on passe par Booking, ou peut-être même encore est-ce que tu as encore un autre exemple de canal de distribution à évoquer?
Alors il y en a quelques-uns. Alors si je reprends les exemples que tu viens de donner, alors le pricing, on rentrera peut-être pas dans cet épisode sur la partie revenue management, mais effectivement en fonction des canaux, il y aura nécessairement des prix qui seront potentiellement différents parce que des conditions de séjour qui seront différentes. Donc là, il y aura une vraie politique de revenue management. Okay. C'est très clair. Par contre, en termes de message, le produit, je suis d'accord, sera identique. La description du produit, on est en train de se poser la question, est-ce que justement, en fonction des plateformes, une plateforme booking.com, HRS, Expedia, a peut-être alors HRS par exemple, qui est plutôt à destination d'une clientèle d'affaires, peut avoir peut-être un message qui est orienté différemment, alors parce que l'attente d'un client en clientèle d'affaires est différente d'un client qui est en loisir. Alors aujourd'hui, beaucoup de plateformes ne s'arrêtent pas à clientèle affaires loisir, donc il faut être quand même suffisamment généraliste. Mais ça va demander, oui, effectivement, un petit peu d'adaptation. On va peut-être moins parler des services de location de vélo, peut-être, à une clientèle plutôt business, alors qu'on aura plutôt tendance à mettre en avant des services loisirs sur une clientèle qui est plutôt loisir. Alors, je pourrais citer un exemple. On a des plateformes qui sont purement de réservation pour des clientèles corporate, type Avas Voyage, type American Express Voyage, etc. Sur ces plateformes-là, on va partir, c'est du descriptif produit cible corporate. Quoi.
Donc là, on va parler vraiment Wi-Fi, on va parler vraiment de...
Exactement, ouais. Petit déjeuner, l'horaire de début de petit déjeuner, parce qu'ils veulent pouvoir avoir un petit déjeuner, pouvoir partir, sur la partie organisationnelle. Alors, pas que ce soit pas important sur la cible loisir, hein, mais c'est juste que c'est pas les mêmes attentes. Donc,
oui, quand tu es en loisir, tu peux prendre un peu plus le temps. Quand tu es en loisir, tu prends un peu plus le temps. Ouais. Ce qui est moins le cas, effectivement, pour une clientèle d'affaires. OK, d'accord. Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, le fait d'adapter ton message en fonction de ton persona, même sur les plateformes. Et en fait, en fonction des plateformes même, justement. Donc ça, c'est OK. C'est super.
Il faut juste bien connaître les plateformes ou garder la possibilité. Après, rien n'est jamais figé. Hein, parce que sur une plateforme, tu prends tes descriptifs, tu peux aussi les faire vivre. Et j'ai envie de dire même, il faut pouvoir les faire vivre au gré des saisons. Tu vas pas faire dans le descriptif des activités loisirs sur Booking ou Expedia ne seront pas les mêmes au mois de janvier que les mêmes au mois de juillet, et il faut pouvoir justement se garder cette possibilité là d'aussi adapter nos descriptifs en fonction de la saisonnalité pour être au plus proche de ce que peut avoir besoin le client. La difficulté, c'est que au moment où tu fais ton descriptif et que tu parles d'une saison, ça ne veut pas dire que ton client il a besoin de réserver pour cette saison-là. Donc c'est là où c'est un petit peu différent, c'est qu'il faut il faut pouvoir s'adapter.
Ok. Et pour rester encore dans cette phase amont du voyage, du séjour, est-ce que tu envisages de communiquer par email, par exemple, avec ton futur client ou ton client parce qu'il a déjà réservé, sur la préparation de son arrivée?
Oui.
Est-ce que pour toi, ça en fait vraiment partie et c'est quelque chose que tu veux vraiment travailler, et de quelle manière?
Alors, c'est essentiel alors sur deux aspects. Un, parce qu'il y a un aspect organisationnel pour l'équipe. On a, dès le départ, introduit le fait qu'on souhaitait faire un concept qui soit responsable. Donc, on est en train de mettre aussi un système qui va nous permettre de pouvoir adapter la mise en température d'une chambre, plutôt un client qui va nous dire je vais arriver tôt ou je vais arriver plutôt très tard. On souhaite pouvoir se dire. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera à 100% de toutes les réservations à obtenir les réponses, mais en tous les cas, c'est une possibilité qu'on souhaite se laisser. Mmh. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a l'aspect organisationnel de se dire, si j'ai beaucoup d'arrivées tardives, ça veut dire qu'il faut aussi que j'organise mon équipe pour dire que il ne faut pas que j'ai que le night qui soit là et qui soit débordé, parce que sinon, ça veut dire que l'expérience client n'est pas nécessairement la meilleure si tout le monde arrive après 23 heures, par exemple. Mmh. Ou alors, ça demande à ce qu'on anticipe un certain nombre de choses. Il y a l'aspect stationnement, il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect aussi communication avec les offres de restauration. On a deux restaurants sur le site, donc c'est quelles offres je vais pouvoir plutôt envoyer à tel client qui va arriver tard par rapport à l'occupation ou par rapport au remplissage des restaurants. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là. Et aujourd'hui, oui, on a un PMS qui est Muse qui nous permet de pouvoir faire des emails de pré-stay. C'est un peu du... Mais voilà, donc soit quelques jours avant, la veille, etc. Donc ça... Et le dernier aspect, c'est que ça permet aussi de faire la vente additionnelle, puisque en fonction des moments, on va pouvoir aussi pousser plutôt une prestation qu'une autre, ou un client qui va dire qu'il vient en loisir, va peut-être faire d'autres offres et qui permettent de faire un petit peu de vente additionnelle.
D'accord, ok. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur la partie engagement durable, parce que du coup, ça fait partie clairement des valeurs de Beau Hotels. Et je le vois de plus en plus, c'est effectivement sur ce que tu veux au petit déjeuner. Typiquement, je reçois de plus en plus le questionnaire de quoi vous avez besoin pour éviter de tout sortir effectivement et de finalement d'avoir du gaspillage. Et du coup, c'est vraiment de dire, ok, est-ce que combien en fait de clients demain veulent surtout des viennoiseries, t'arrives finalement à jauger et à peu près adapté, ça c'est et anticipé, ok, ça c'est super.
Alors pendant la période Covid, on a continué à se déplacer, alors de manière raisonnable, mais on avait aussi besoin de se déplacer, donc les hôtels c'était souvent très bien adapté pendant cette période-là.
Oui.
Et il y avait justement ce besoin de flexibilité. Et moi, je trouve pas choquant que quand j'arrive dans mon hôtel, en tout cas sur cette période-là, ça m'avait pas choqué de dire est-ce que vous savez ce que vous allez prendre demain ? Alors peut-être parce que moi, je sais déjà ce que je petit déjeune le matin quand je me déplace. Il y a peut-être des clients qui veulent se laisser la liberté d'avoir du choix, ce qui est aussi compréhensible. Hein. D'ailleurs, peut-être plus quand on est en loisir que quand on est en business. Mais en tous les cas, il faut partir du principe qu'on peut poser à peu près toutes les questions au client. Il répondra de toute façon de la manière dont il souhaitera. Et je pense que les clients aujourd'hui sont relativement transparents, donc ils n'hésiteront pas à communiquer ou pas.
C'est intéressant. Et je pense que je trouve que c'est aussi une forme de responsabilisation de chacun, en fait, là-dessus aussi. Oui. Tu souhaites contribuer ou pas. Comme tu le dis, il y a le ou pas sur cet engagement éco-responsable. Et si tu le souhaites, on te fait la liste de ce qui peut être proposé au petit déjeuner dans ton forfait, dans la prestation. Sélectionne. Moi, ça m'arrive très souvent en fait maintenant d'avoir une fiche, tu sais, et tu coches ce dont tu as besoin, quoi. Et puis
ça, c'est ce que donc ça, c'est sur l'offre au petit déjeuner. C'est typiquement quelque chose qu'on est en train de réfléchir parce qu'on a les équipes qui sont en train d'arriver, et justement c'est un petit peu la démarche qu'on leur a demandé de réfléchir sur la sélection des produits, le nombre de familles de produits, de sourcer en local au maximum pour rester dans nos valeurs, et puis après on verra comment est-ce qu'on arrivera à transposer ça sur, alors c'est une offre petit déjeuner buffet, donc il faut qu'on arrive à doser, mais ça peut par exemple être des produits saisonniers, pas tout le temps la même chose, donc on se donne, et c'est cette chance là c'est de créer notre propre concept. Alors c'est peut-être plus de réflexion, plus d'anticipation, mais c'est aussi plus de liberté de se dire on peut faire les choses comme on le souhaite et de pouvoir l'adapter, le changer avec pas trop de contraintes. En tous les cas, le moins possible.
Pour rester, et là c'est la dernière question sur la partie expérience client en amont, est-ce que pour toi tout ce qui est moyen de paiement fait partie clairement d'un critère important dans l'expérience client. Je me pose la question, surtout dans le cas d'une entreprise comme la tienne, qui est dans un hôtel comme le tien, qui vise énormément de voyages d'affaires. J'ai moins cette vision-là, moi, sur la partie facilité de paiement. Est-ce que c'est un critère ou c'est un non-sujet, en fait, la partie paiement et facilité de paiement?
Alors, j'ai envie de te dire, je sais pas. c'est pas une réponse, mais je sais pas quel sera le besoin du client qu'on ne connaît pas encore. En tous les cas, nous, la réflexion qu'on s'est posée avec Louis, donc qui est le gérant mm-hmm. associé avec nous sur ce dossier-là, c'est de se dire, on avait plusieurs choix. Aujourd'hui, on s'est laissé la liberté d'accepter les American Express, les cartes étrangères, d'accepter les paiements électroniques avec la montre, avec le téléphone, etc. Parce qu'on se dit qu'il faut vivre dans l'air du temps et que être responsable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans les attentes du moment. Les attentes du moment, il y en a peut-être des clients qui vont payer avec leur Apple Watch. Il y en a sûrement qui vont payer avec leur téléphone. Et il faut qu'on ait cette possibilité-là. On ne peut pas ne pas se le permettre. Comme on va faire le paiement électronique directement sur le site. Enfin, ça, c'est j'ai envie de dire, plutôt traditionnel. On n'a rien inventé. Mais tous les systèmes de paiement ne permettaient pas, par exemple, de payer en Apple Pay. Et ça, par contre, c'est un choix qu'on a fait de pouvoir l'accepter.
OK, d'accord.
Ça ne veut pas dire qu'on aura... 5, 10, 15, 20% de nos paiements qui passeront comme ça, mais en tous les cas, voilà, c'est faut qu'on puisse effectivement vivre avec son temps, et surtout que ce soit pas un frein pour le client de se dire je ne peux pas payer. Alors l'American Express, on s'est posé la question, mais l'American Express, si tu as une clientèle, une cible loisir, c'est pas nécessairement le besoin. Sur une clientèle affaires, tu peux pas t'en passer parce que tu as des entreprises qui travaillent avec American Express. Alors, c'est pas les commissions sont un peu plus chères.
Mais ça fait partie.
C'est un service. Exactement.
Ah ouais, ok.
Et nécessaire pour être référencé par les entreprises.
Aussi.
Ce sera une partie de notre cible. Donc à un moment donné, ça fait
quasiment partie du cahier des charges. Cahier des charges, il me semble. Ouais. Exactement. D'accord. Ok. Et bon, les facilités de paiement, finalement, c'est peut-être pas un sujet parce que la plupart du temps, en hôtellerie, il y a un acompte qui est payé lors de la réservation, puis le solde le jour du départ, finalement, ou le jour de l'arrivée, je sais plus jamais.
C'est plutôt. Alors, ça dépend. Alors, sur les séjours loisirs, souvent, en hôtellerie, plus, on va dire, qui a une cible de clientèle, tu as le non-annulable non remboursable, c'est un paiement immédiatement. Tu peux avoir du semi-flex, effectivement, où tu as un acompte et où c'est modifiable dans certaines conditions. Et après, tu as le tarif flex qui, lui, pour le coup, tu prends une garantie sur le séjour, mais tu n'as pas de paiement. Le paiement se fait à l'arrivée ou au départ, ça dépend des hôtels. Alors, il y a de moins en moins d'hôtels qui font le paiement au départ, c'est de plus en plus à l'arrivée. Mais où tu payes ta chambre au moment où tu la prends.
Oui.
Malgré tout, elle est garantie avec des conditions générales de vente et des conditions de tarifaires qui sont adaptées à chaque séjour. C'est un peu les trois quatre modèles. Ça fait partie. Alors pour le coup, ça rentre dans les critères de, on va dire, de revenu management.
Ouais.
En général, tu as un tarif le plus attractif, il est non annulable, non remboursable. Et tu sais que pour obtenir ce tarif-là, c'est la condition, que tu peux pas l'annuler, modifier ni annuler.
Ah ouais, mais comme le billet Prums sur le TGV, quoi.
Pour le coup, personne n'a rien inventé.
C'est souvent d'ailleurs le revenu management vient souvent du secteur du transport, transport aérien, transport
ferroviaire. C'est l'aérien qui a inventé le bill a été inventé par l'aérien.
Ouais, ouais.
Et adapté maintenant dans le ferroviaire, mais dans plein de secteurs.
Ouais.
Voire même dans la restauration. Dans la restauration, tu commences à... Alors, c'est plutôt encore du marketing, mais tu as des bars qui font leur carte et qui varient en fonction de l'offre et de la demande. Le prix évolue. Après, tu as les happy hour, tu as plein de choses. C'est aussi des formes de yield. Alors après, plus ou moins poussées, mais...
Ouais, c'est vrai. Voilà. D'accord. Et puis pour terminer, l'expérience client... Alors, non pas pendant le séjour, parce que ça, après, tu construis, parce que finalement, pour améliorer l'expérience client durant le séjour, finalement, tu vas t'intéresser à l'analyse des retours de ton client. Donc là, on est vraiment sur la passe, donc après séjour, ou justement, tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu analyses les retombées du client, les retours du client avant son départ, juste après son départ, à quel moment pour toi, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour toi, en fait ?
Alors, ça fait partie des choses qu'on est en train de regarder. Alors, c'est du paramétrage parce que tu as des solutions, alors, soit qui sont proposées par ton PMS, soit qui sont proposées par. Alors, on n'a pas de commission, mais on parle à un des partenaires avec qui on discute. Expérience Hôtel, par exemple, propose une solution où, à partir du moment où ton client a fait un check-in, tu peux lui envoyer un email au bout de 2 heures, au bout de quelques heures, pour lui dire bonjour monsieur le client, ou bonjour madame la cliente, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez quelque chose à nous remonter? Pas attendre, en fait, que le client, enfin, solliciter, entre guillemets, l'avis du client, de dire bah, si tout va bien, il te répond, il ne te répond pas, mais s'il y a un petit couac,
C'est le
s'il
moment
y
où
a une
c'est déjà.
adaptation, s'il a un besoin, etc., c'est solliciter aussi le client. Après, il faut que les équipes aussi interrogent le client. Alors, ça se fait de plus en plus en restauration, ou plus ou moins adroitement, ou en fonction des personnes, hein, parce que j'étais hier dans un resto, et il pose la question parce qu'il faut qu'il pose la question, et des fois, c'est un peu maladroit. Voilà, tout se passe bien.
Ouais, un peu lourd, ouais, ça peut être un peu
Ouais,
lourd.
voilà. Bon. Mais ça fait partie. Au moins, on pose la question. S'il y a quelque chose qui ne va
Ouais.
pas, c'est à ce moment-là où tu peux dire, bah,
Il me manque ça.
j'ai pas eu ma
Ouais.
salade, j'ai pas eu mes frites, je voudrais bien de la mayo, du ketchup. Moi, je passe les. Et c'est pareil en hôtellerie. En fait, tes clients, ils passent régulièrement, ils rentrent, ils vont aller au resto, etc. Un sourire et bonjour madame, est-ce que tout se passe bien? Ça coûte rien. Et c'est à ce moment-là où tu peux aussi engager une discussion avec ton client. Et on est quand même dans des métiers de service, hein, on le répète
Bien sûr.
tous les jours. Le métier de service, c'est de s'enquérir que tout se passe bien avec ton client. Et pas
Ok.
attendre qu'il parte, qu'il soit frustré et qu'il te réponde derrière un écran. Où ce soit dépersonnalisé et où des fois c'est un peu plus brutal parce que bah, tu lui as pas donné l'occasion de s'exprimer avant. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est ça. C'est pendant le séjour, alors juste après l'arrivée, mais le lendemain, ça peut être le lendemain aussi, de poser la question, est-ce que tout se passe bien? C'est une question qui coûte rien.
Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Ouais. Ok. Ouais.
Exactement. Ouais,
Est-ce
tout à
que
fait.
l'installation s'est bien passée, quoi, déjà? Ouais, effectivement. Il y a une phase que j'aime beaucoup, moi, dans l'expérience client. C'est la phase d'observation, en fait. Typiquement, est-ce que il y a une formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se porter sur l'observation du client dans sa manière de consommer l'hôtel, son séjour chez vous, c'est-à-dire les espaces qu'il va utiliser, tu vois, les espaces lounge, les espaces bar, le petit déjeuner, qu'est-ce qui parle le plus? Est-ce qu'il va y avoir une certaine observation globale de l'usage, l'utilisation des différents espaces?
Alors, on a essayé de penser les espaces de manière très ouverte, c'est-à-dire que alors un des avantages de faire de la construction, c'est que bah, tu peux penser toi-même les espaces. Alors j'espère qu'on y a pensé le mieux possible. L'expérience nous le dira sur l'ouverture, mais l'accueil en fait est situé justement face à l'espace lounge et où les équipes de l'accueil ont vu à la fois sur l'entrée, sur les ascenseurs, sur l'espace bar et sur l'espace petit déjeuner. Donc il y a vraiment une vision, alors j'allais
Oui,
dire
on a vu sur les croquis.
presque
On a vu ça.
360, mais en tous les cas, le client peut pas passer, rentrer, sortir sans qu'on puisse lui faire un sourire, lui dire bonjour, est-ce que tout se passe bien? Et puis même bah, d'être à sa disposition s'il y a un besoin de servir un café au bar, d'être à l'accueil, etc. Donc de faire notre métier de service. Après, alors, en toute sincérité, on n'est pas allé jusqu'à se dire, est-ce qu'on va comptabiliser combien de fois la salle de sport sera utilisée? Peut-être que ça pourrait être nécessaire, mais non, on s'est pas encore posé cette question-là. On a deux espaces, on a donc une salle de remise en forme et un espace dédié aux enfants. Puisque nous, dans les valeurs, il y a aussi les valeurs de la famille. Donc, on a fait un espace dédié pour les enfants avec un espace de jeu qui a été pensé vraiment pour entre guillemets, petite enfance. Mais ces espaces-là, on les a voulu sécurisés, mais pas nécessairement, on ne sait pas de quelle manière et dans quelle volumétrie ils vont être utilisés. Et à la limite, on n'a pas réfléchi à la
Ma question, elle
quantification.
portait... ouais, ma, port... ma question, en fait, elle portait pas sur la rentabilité, mais plus sur Est-ce que l'utilisation est optimale pour le client? Enfin, tu vois, est-ce que ce service, tu vois, c'est plus sur est-ce que ce service, comment il est perçu par le client, tu vois, et comment il est utilisé ou comment est-ce qu'il pourrait être encore mieux utilisé si c'est le souhait. Mais finalement, ces questions-là, tu peux les poser dans, j'imagine qu'il y en aura un questionnaire satisfaction. Et du coup, est-ce que ce questionnaire, bah justement, il va se porter sur l'ensemble des services? Parce que parfois, il y a aussi la question, saviez-vous qu'on a ça? Parce que
bien peut-être
ils sont passés à côté de l'info. Et du coup, ça te pose la question finalement de la signalétique à ce moment-là, ou de la communication sur l'ensemble des services. Du coup, on arrive sur la fin de l'expérience client, on arrive sur la fin du parcours, qui est de dire, voilà, après le séjour, quel service avez-vous utilisé, apprécié, auriez-vous aimé tester, mais vous n'avez peut-être pas le temps, vous ne saviez même pas que ça existait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour toi, justement, va permettre finalement de remplir cette phase d'observation, hein, d'une certaine manière?
Il y a deux aspects sur la fin du séjour. C'est le moment du check-out en lui-même où, c'est facile à dire quand t'es assis derrière un bureau et que tu réfléchis et que t'as le temps et que tu te dis, OK, alors ça va être quoi la procédure de départ d'un client? Je vais lui demander si son séjour s'est bien passé, lui donner sa facture, vérifier, prendre le paiement si c'est pas fait ou le complément de ce qui peut manquer, etc. Et poser un certain nombre de questions sur le séjour. Donc, c'est à ce moment-là où t'as ton client qui est en face de toi. Et tu peux lui poser la question. Après, dans les faits, pour avoir fait un certain nombre d'années derrière des banques d'accueil, tu as des clients qui ont toute autre chose à faire que d'être gentils avec toi. Alors, pas qu'ils ne soient pas sympas, mais ils ont un temps qui est compté, un train à prendre, un rendez-vous, un taxi qui arrive, etc., des gens à rejoindre, et ils n'ont pas le temps de répondre à cette question-là. Donc, il faut se laisser la possibilité de, et communiquer avec le client. Alors, avec la difficulté, c'est que quand c'est de l'oral, comment est-ce que tu retranscris ça pour ne pas louper l'information? Donc, effectivement, l'outil le plus adapté, c'est le questionnaire posté que tu envoies à ton client le lendemain ou le surlendemain, pas trop tard pour que son expérience soit encore chaude, et où tu vas lui demander justement de solliciter un avis, peut-être une publication avec un partenariat sur des sites d'avis partagés en ligne, et en tous les cas, où tu vas pouvoir avoir un questionnaire. Et là, on n'a pas du tout à ce stade-là encore réfléchi au type de questions qu'on va poser. Mais effectivement, il y aura les questions sur l'évaluation du produit, l'évaluation du service, la localisation, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et effectivement, si on se rend compte que la salle de sport est très peu utilisée, on pourra peut-être rajouter typiquement une question. Saviez-vous connaissance de la salle de sport? Qu'en avez-vous pensé? Ou si vous avez utilisé la salle de sport, ça sous-entend que s'ils ne l'ont pas utilisée, mais peut-être que. Et dans ces cas-là, dans le choix de question, c'est « je ne savais pas qu'il y avait une salle de sport ».
Oui.
Dans ces cas-là, on pourra nous se poser la question. En fait, toute question doit être orientée pour se dire « la réponse que je vais obtenir doit me permettre de modifier mon expérience client et ou d'adapter si besoin ».
Bien sûr.
Aussi, parce que la signalétique, c'est toujours possible de modifier la signalétique.
Après,
si
tu as
besoin, si c'est un service qui n'existe pas, que le client le sollicite, il faut voir si c'est possible de rajouter ce service.
Ok. Et est-ce qu'il est possible, envisageable pour toi de justement faire passer ce questionnaire de manière écrite, papier, dans la chambre? Par exemple, tu sais que la veille du départ, tu sais que le client va partir, tu lui glisses le questionnaire en format papier sur le bureau qui est, tu vois, sur le bureau. Est-ce que c'est intrusif? Comment tu le percevrais, ça?
Alors non, sur le côté intrusif, non, je pense pas. Alors le glisser, ça se réfléchit. Là comme ça, à brûle pour point, j'ai pas de. Ça peut se réfléchir. Alors nous, sur le fait d'imprimer un papier qui n'est pas nécessairement rempli, c'est peut-être pas nécessairement la démarche. Parce que là, on est en train de travailler sur le room directory, par exemple. Ce sera un room directory dématérialisé.
Oui, où tu fais un QR code à ce moment-là. Ouais.
Avec un QR code sur un cube en bois, etc. Donc,
je connais.
De sympa, quelque chose de sympa. Oui, c'est un de tes... exactement. Avec qui on est en train d'échanger là-dessus, par exemple. Après, il faut aussi qu'on s'adapte aux clients qui ne seront pas tech. Tous les clients ne seront pas tech. Tous les clients n'auront pas envie d'avoir un QR code. Et on a des générations de clients pour qui ça les horripile que tout soit électronique. Et donc, il faut aussi qu'on bonne dose. Peut-être que la question sera de se dire, le Home Directory est disponible à l'accueil, alors en quantité moins importante, mais il est disponible à l'accueil en format papier pour celui qui ne souhaite pas utiliser son smartphone, ne souhaite pas, qui n'a pas envie d'être connecté ou quoi que ce soit. Donc ça, il faut qu'on y réfléchisse. Le questionnaire, en tous les cas, ça fait partie des questions pendant le séjour. On peut effectivement poser un certain nombre de questions au client. Il faut même presque poser des questions au client. La forme, elle reste où elle est à définir.
Ok. Okay. Bah, écoute...
Effectivement, c'est tout, enfin toute remontée d'informations de la part du client, elle est hyper importante dans le service, dans les métiers de service.
Tout à fait. Mais effectivement, je pense que au mieux tu observes et tu laisses le client en fait le faire lui-même, ses remontées, moins tu le guides en fait quelque part, plus tu auras une donnée brute et authentique, en fait. Le problème des questionnaires, c'est que souvent, ils sont un peu biaisés parce qu'ils invitent trop.
Ils sont très orientés.
Ils sont trop fermés, en fait. Ils sont bien souvent très fermés. Contrairement à ce qu'effectivement, quand tu parles à l'oral, quand tu parles en face-à-face, je veux dire, c'est quand même pas pareil. Il y a quand même, voilà. Mais, à l'inverse, la formule écrite permet aussi de dire des choses que tu n'oses pas forcément dire en face.
Et l'oral, c'est comment est-ce que nos équipes vont retranscrire le message du client? Est-ce qu'il y a une forme d'interprétation aussi? Est-ce que c'est aussi un risque? Après, on va peut-être un petit peu loin. Mais
sur le petit déjeuner, on va peut-être un peu loin.
Par exemple.
Ok, écoute, je te remercie beaucoup.
Écoute, avec plaisir.
Moi, c'était très clair sur la partie expérience client. On va pas lister tous les services que tu proposes parce que on laisse aussi la possibilité de les découvrir quand le site internet sera mis en ligne. On aura l'occasion de voir toutes les possibilités et de tester finalement en amont cette expérience client qui est envisagée. D'ailleurs, en parlant de test, ce sera ma dernière question du coup, parce qu'on en a parlé en préparant l'épisode, mais j'ai oublié de te poser la question. Est-ce que tu envisages une forme de rodage de cette expérience client et de remonter, non pas par des clients mystères, je parle pas de ça, mais vraiment de faire tester et qui dit test dit ensuite interview et enquête, en tout cas étude de l'expérience auprès de, je sais pas, des familles de ton entreprise, des collaborateurs, enfin tu vois, est-ce que des partenaires, des fournisseurs, est-ce qu'il y a cette phase là que tu envisages?
Oui. Alors oui, c'est nécessaire par deux aspects. Alors là, je vais citer rapidement deux exemples. On développe un premier restaurant qui va ouvrir le 28 mars, qui est sous enseigne au bureau, donc du groupe Bertrand. L'ouverture, elle est prévue à une date bien définie qu'on connaît depuis fort longtemps. Donc c'est aussi un peu notre point de vue. Et c'est tout le planning, il est calqué par rapport à cette ouverture-là. Et en fait, les deux jours avant, il y a la possibilité, alors la veille, c'est sûr, et peut-être le jour d'avant, de faire un dîner à blanc. Donc, sur la restauration, c'est le dîner à blanc où, justement, c'est des gens qui sont invités. Dans le sens invité, c'est qu'ils sont sélectionnés. Et justement, c'est souvent l'entourage, les partenaires, les gens qui ont participé au projet, etc., les prestataires qui ont contribué aussi à construire l'hôtel ou les restaurants, qui vont participer. Et c'est une façon de roder l'équipe sur la partie production, sur la partie service, et puis de régler les derniers petits réglages, mais qui sont en vraie situation. Et donc, pour l'hôtel, il y a la partie technique où on va faire des séjours où on va regarder plutôt la partie vraiment avec un œil technique, en se posant dans la place du client. Et puis, il y aura les séjours un peu plus expérientiels, justement, sur la partie service, roder les équipes, sur les check-in, etc. Et derrière, effectivement, avoir cette phase d'interview avec les personnes pour voir comment est-ce qu'ils l'ont ressenti. Et que ça peut participer à la fois à la formation, ça permet de tester le service et aussi de roder les équipes. Et c'est un retour aussi en termes de formation. Donc ça, oui, c'est hyper important.
Super.
Avant une vraie ouverture au public, parce que le premier client, il doit se sentir accueilli comme si l'hôtel était ouvert depuis 10 ans et que toutes les équipes sont en place.
C'est bien ce que je pensais. C'est bien qu'effectivement, il y avait pas, le premier client n'est pas le vrai premier client en réalité.
Le vrai premier client, non. Ouais. Ouais.
Alors, non, mais c'est très bien.
Il y a le vrai premier client en termes de service. Et ce n'est pas nécessairement celui qui paye. Mm. Après, il y a le vrai premier client payant. Et là, c'est un petit peu différent.
Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci pour cet épisode sur l'expérience client. En termes de planning, il n'y a pas eu de décalage? On est toujours bon sur une ouverture à fin avril?
On va être prêt pour notre phase de test à partir de fin avril. Après l'ouverture, la grande ouverture, on va dire, pour le premier client, on sera probablement plutôt courant mai.
D'accord.
Donc, alors, sans dire que c'est du décalage, mais c'est de l'adaptation un petit peu de, voilà, des petites choses. Mais oui, on sera avant l'été, en tous les cas. On s'était dit avant l'été, donc on sera sans aucun souci ouvert largement avant l'été.
D'accord, ok. Ben, je te remercie beaucoup. Et puis je te dis rendez-vous au mois prochain pour un 7e épisode du Journal de bord.
Eh bien, au mois prochain. Merci beaucoup.
Merci à toi. Salut.
Merci. Salut.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que la thématique de l'expérience client vous a plu. En tout cas, pour moi, c'est un sujet qui est toujours passionnant. C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment observer et développer et améliorer. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire sur les réseaux sociaux s'il y a une pratique qui vous plaît particulièrement, que vous avez vous-même testée et éprouvée et que vous aimeriez partager avec l'ensemble de la communauté d'hébergeurs et de destinations touristiques. En tout cas, je vous dis à tous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Et quant au journal de bord, je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le 7e épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!